Eh non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
Ah, dichats à toutes, c'est Dany Baillet, le gourmandas. Le gourmandas, pourquoi? Parce que dans notre belle langue gasconne, le suffixe a une importance capitale. Regardez par exemple un chien, une can. Si vous y ajoutez hôte, c'est un cagnotte, un petit chien. Si vous y ajoutez un, ça fait un cagnoum, un mignon petit chien. Et si vous ajoutez a, ça fait une cagnasse. Et là, ça se passe de commentaires. Bonjour à tous, bon c'est Dany Baillet, bien sûr le gourmandas. Voilà, après une belle période de fête, très arrosée mais bien comme il faut, eh bien je me suis lancé à travers la récapitulation de quelques magnifiques lectures gourmandes à essayer un petit traité de gourmandise sur l'histoire incroyable d'un péché capital, celui-là même de la gourmandise bien évidemment. Donc j'ai voulu vous en faire part, tout simplement. Aujourd'hui, ça ne sera pas la dissection d'une bouteille ou d'un morceau de barbac. Ça sera tout simplement l'histoire d'un péché capital que je vais essayer de vous retracer depuis très longtemps avant nous, à travers les siècles, et à travers les différentes façons dont ça a été vu, ressenti, à travers les grandes périodes donc de notre vie. Alors pour comprendre, eh bien, il faut essayer de commencer par le début, hein, à travers plusieurs ouvrages que vous pouvez offrir en toutes occasions, dont je vous laisserai la bibliographie bien sûr en fin de chronique. C'est un régal bien sûr que j'ai voulu reprendre d'illustrations abondantes, de qualité, des peintures à travers des caricatures, des estampes, des photographies, des affiches à faire, etc. Des textes savoureux qui révèlent des connaissances passionnantes tout au fil des siècles, bien sûr, dans un style vivant et un peu accessible à tous, dont on peut goûter souvent quand même aussi l'humour, parce que ça ne dérange en rien. Voilà, c'est un voyage en gourmandise à travers les siècles. Alors d'abord, je vais vous parler de la gloutonnerie ou de la voracité du ventre, qui est un peu l'apanage d'une minorité, bien évidemment, au Moyen-Âge. Je vous avais fait une rubrique en 2020 sur l'opulence ségrégative à travers les peintures de Bruegel l'Ancien. Ici, on va parler de gula, bien sûr. Gula, c'est l'un des sept péchés capitaux, qui était la première tentation s'opposant à l'abstinence et à une rigoureuse ascèse pour les religieux qui fondèrent les premières communautés de moines établies dans le désert égyptien. Ça ne rajeunit pas tout ça. L'ordre, bien sûr, suivi par les vices charnels ou spirituels, car ils existaient, indiquait évidemment une hiérarchie, mais aussi un parcours initiatique. La gourmandise incitant aux autres vices, du moins c'est ce que l'on pensait ou que l'on annonçait. À la fin du VIe siècle, l'ordre est repensé, il est inversé et la gourmandise se retrouve en avant-dernière position juste avant la luxure. Mais qu'entend l'Église par péché de gourmandise? Eh bien, en passant du monde monastique à celui des laïcs, la gourmandise a changé de signification. En s'opposant de la modération et non plus à celui de la mortification du corps, c'est un peu savant, le péché de gourmandise a connu son premier assouplissement, ben heureusement. Et les théologiens médiévaux insistent bien moins sur le péché lui-même que sur ses dangereuses conséquences. On est là des choses plus scientifiques. Il s'agit ici de voir l'affaiblissement des sens, la colère, l'envie et la luxure, bien évidemment. Dans les injures médiévales, connues par des sources judiciaires et littéraires, c'est-à-dire sérieuses, glouton, car c'est le mot, et ses dérivés recouvrent le sens actuel de goinfre, de goinfrerie, mais aussi de dépravation, de dépravé, de débauche, de débauché. Et il y en avait à l'époque, bien sûr, par ceux qui pouvaient en profiter. Aux épisodes bibliques sur lesquels se fonde le péché de gourmandise responsable du péché originel, se conduit irrémédiablement la luxure. Naturellement, il nous offre ensuite une réflexion sur les miniatures, fresques et décors sculptés des églises médiévales qui proposent toutes des représentations figurées de gula. Ce n'est pas un hasard si la représentation de l'enfer, c'est un grand début, marqué par le feu, l'enfermement et la fumée, ben, s'inspire forcément du monde des cuisines. La représentation médiévale du gourmand ne stigmatise pas un sexe d'ailleurs. Hommes et femmes peuvent être atteints également par ce péché. En revanche, elle désigne des catégories sociales précises. Et évidemment, dépeinte comme un péché de riche et de puissant, elle se rapproche alors de l'orgueil pour ceux qui mangent avec trop d'apparat ou de l'avarice. Gourmands et avares bafouent évidemment le principe de la charité chrétienne et du partage convivial, pourtant nombreux sont ceux qui sont dans les ordres. Les miroirs des princes, sorte de traité d'éducation, mettent en garde les grandes ce monde contre les dangereuses séductions de la table. Image de la concupiscence, de la gloutonnerie, elle devient la tribu du tyran. Les romans du XIVe siècle, c'est notamment le roman de Fauvel, dont je vous donnerai la bibliographie, qui m'ont servi à ce texte, illustrent cette idée, mais enseignent aussi que loin d'être un lieu de perdition, mais heureusement la table peut être aussi un exemple d'édification et de perfection. Au XIIIe siècle, l'idéal de la modération supplante celui de la privation alimentaire. Moralistes, pédagogues et hommes d'église cherchent à rendre acceptable le plaisir de manger. Certainement qu'ils y trouvent leur compte. La codification des comportements à table sera la voie séculière élue pour lutter contre gula, pour civiliser la gourmandise. À partir du XIIIe siècle également, les autorités ecclésiastiques mettent en avant les graves risques physiologiques, donc au niveau de la santé, que représenterait la gourmandise. Qu'en est-il du discours diététique tenu par les médecins ? La diététique médiévale reposant sur les notions d'équilibre et de modération, il existe une indéniable parenté entre son discours et évidemment celui tenu par l'Église. Nous apprenons au passage que le sucre de canne appartient à la sphère thérapeutique, tenez-vous bien, jusqu'au XVIIe siècle, car il est censé faciliter la digestion des aliments. Ça va arranger nos voisins américains. Les confitures auraient la propriété de fermer l'estomac à l'issue d'un repas et on leur prêtait même des vertus curatives. Alors, nous allons parler maintenant des gourmandises de Cocagne. Là, c'est un auteur très connu et un auteur majeur dans la gourmandise, Florent Quélier, qui évoque ici une utopie médiévale. Le pays de Cocagne, longtemps nommé comme un pays de misère, et aujourd'hui le pays de Cocagne qui se situe tout à fait à l'opposé. C'est un pays merveilleux. Fable largement répandue en Occident à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Une recherche documentaire très soignée qui permet de mettre à notre portée des textes au milieu du XIIIe siècle avec la première description littéraire européenne du pays de Cocagne, par exemple. Il évoque cette intention médiévale, mais aussi son imaginaire bien plus ancien, qui puise dans les récits bibliques et les mythes de l'Antiquité. Ce sont des fabliaux, ce sont des poèmes, des farces, des tableaux, des gravures, des cartes parodiques qui permettent de savourer les paysages de Cocagne, ces paysages merveilleux que l'auteur nous détaille dans ses pages, où il évoque les couleurs locales de cette fable, selon les différents pays d'Europe. Les différences en sont révélatrices de gourmandise régionale et de l'évolution des sensibilités gustatives entre le XIIIe et XVIIe siècle, qui ont inscrit un peu nos traditions culinaires actuelles. Les mets de Cocagne ont le goût, la mixité sociale, les plats du jour de fête populaire cohabitent alors avec les pratiques alimentaires des élites. C'est un peu l'ouverture dont parle Bruegel l'Ancien, un ou deux jours par an, à une forme de remerciement du peuple qui est autorisé deux ou trois jours par an à festoyer avec les riches. L'absence d'interdits sociaux, quelques jours seulement, religieux ou moraux, permet alors à chacun de boire et de manger selon son bon plaisir ce qu'il désire. Dans un monde occidental marqué par une pénurie de graisse et de diète ordinaire maigre, les élèves de Bonnechère d'alors sont tout autant marqués par le désir de gras. Cette utopie contient une charge contestataire implicite contre l'Église catholique, contre les pénitences alimentaires, les contraintes, les jeûnes et les abstinences calendaires d'obligation. Le pays de Cocagne offre alors une évasion dans un imaginaire où une population connaît le coût humain des pénuries alimentaires, évidemment, et la misère. Revisité par la suite en repoussoir proposé à la jeunesse, Cocagne entre donc dans les traités d'éducation. Le pays de Cocagne est un monde peu recommandable où se vautrent les paresseux et les goinfres en tout genre. Vous voyez, une civilisation qui va de haut en bas. Vont ici s'opposer, eh bien, des choses très religieuses, comme d'habitude. La volupté catholique qui s'oppose à l'austérité protestante. Nombre de textes médiévaux abordent la gourmandise des ecclésiastiques en l'associant souvent à d'autres péchés capitaux tels la paresse, la luxure, tenez-vous bien, ou l'envie. Et Florent Quélier, l'auteur, commente quelques pages et nous signale que, loin d'être un fantasme, cette imagerie témoigne du statut envié du secteur abrité dont jouit le monde ecclésiastique dans la géographie alimentaire de l'Occident chrétien. C'est le rappel des modes de vie des papautés. Et quand on parle des Borgia, par exemple, tout le monde se rappelle de quoi on parle, naturellement. Le thème alors se radicalise violemment dans la littérature pamphlétaire protestante opposée au premier temps de la Réforme. Le bestiaire médiéval et évoquant la gourmandise surgit sous la plume des pamphlétaires protestants. La thématique de la cuisine permet d'évoquer l'amour de la bonne chère, mais aussi dans un sens figuré, eh bien, les malversations évidemment de l'Église, trafic des bénéfices ecclésiastiques, vente de sacrements, indulgence, ouh là là, ça c'est très laid. Le thème du ventre n'est pas propre à la littérature polémique protestante, il est présent évidemment aussi dans les pamphlets catholiques contre les réformés, mais il y désigne moins la gourmandise que la luxure. L'auteur aborde ici également la critique classique de l'art du cuisinier comme un art de fausseté, comme hypocrisie. Lors des jours maigres, les élites catholiques se régalent de poissons les plus frais ou de versions de leurs plats de viande adaptés spécialement pour le carême. Une façon de contourner la difficulté. Respect du maigre et plaisir de la table sont alors incompatibles, à condition d'en dicter les lois, bien évidemment. Le jeûne protestant est avant tout l'éloge d'une table sobre et sans excès. Lui est synonyme de modération. Alors ici, bien sûr, viennent des commentaires sur le modèle culturel anglais, comment ne pas en parler, bien évidemment, marqué par le rejet de toutes les expressions du papisme. Ils n'ont jamais, bien sûr, fait rien comme les autres, c'est bien connu. Il a résisté à l'art franco-italien de la bonne chère, qui a fait de la cuisine non seulement un art de vivre, mais un sujet de conversation, et surtout une branche entière entre des beaux-arts. Aujourd'hui encore, le rapport à la table et au plaisir gastronomique n'est pas le même en Europe du Nord, de culture protestante, et en Europe du Sud, de culture plus catholique. Ce constat nous conduit à s'interroger sur le lien possible entre éthique catholique et plaisir gastronomique. Bien sûr, les communautés religieuses participent toujours à la production de denrées alimentaires de qualité et autres spécialités gourmandes, si on veut bien sûr ne penser qu'aux moines trappistes dans la partie nord qui nous font les plus belles bières, ou au vin des cisterciens dans la partie centre et sud de la France, qui nous font des vins parmi les plus grands du monde, bien évidemment. C'est aussi le rôle essentiel joué par l'Église catholique dans l'invention du chocolat et sa diffusion en Europe. L'idée d'ajouter du sucre de canne au cacao, amer, c'est une idée des Aztèques, attribuée à une communauté de carmélites installée à Oaxaca, au Mexique. Cependant, de la Renaissance au début du XIXe siècle, un courant très rigoriste catholique, comme par hasard qui y s'installe, est hostile à la bonne chère, traverse l'époque moderne. L'accent est mis sur l'utilité sociale, la recherche du bien public. Il est intéressant de constater que les cas d'anorexie sont de plus en plus compris comme une pathologie et non plus comme une marque de sainteté. L'assouplissement catholique des interdits alimentaires, des règles du jeûne, reposant sur de nombreux cas, dispense individuelle ou collective, eh bien lui contribue à la déculpabilisation du plaisir gourmand, heureusement. La nature exacte du chocolat a partagé autorité médicale et autorité morale catholique au XVIe siècle. Est-ce une simple boisson tolérée afin d'épancher sa soif ou un breuvage interdit lié au plaisir et à la volupté? Alors entre laxisme et rigorisme, bien sûr, la position de l'Église catholique envers les plaisirs de la table semble hésiter et dépend surtout du sens donné à la gourmandise. L'ivrognerie apparaît alors comme le vrai péché de gourmandise. Si le plaisir de boire et de manger ne donne pas lieu à des comportements indécents, l'Église catholique alors n'y voit aucun mal, faisant l'éloge de la modération et de la décence à table, sans condamner les plaisirs gustatifs et œnologiques. L'Église catholique a accompagné les élites occidentales dans un processus de civilisation de l'appétit, nous déclare Florian Quellier, pour conclure son chapitre sur la modération. Le règne des friands et des gourmets apparaît alors, c'est au XVIIe siècle, que s'impose une honnête gourmandise comme modèle culturel français. Elle ne va faire que grandir. Elle n'est pas née en France, mais probablement en Italie. C'est la naissance de l'honnête homme fin gourmet que nous commentent ici plusieurs écrivains. Et à partir de l'analyse des textes littéraires du XVe, XVIe et XVIIe siècle, friand, gourmet, coteau sont autant de termes qui permettent d'éviter l'usage de gourmand qui demeure un mot péjoratif. C'est gourmet qui prend la place de gourmand. L'auteur analyse ici la variation du sens des mots relatifs à la gourmandise. Et dans les deux derniers siècles de l'Ancien Régime, le mode de vie des élites françaises est indéniablement marqué par un détournement hédoniste des buts de l'alimentation. Allez, après toute cette première partie de réflexion, offrons-nous quelques notes pour nous détendre un peu avant de continuer cette belle lecture.
Du temps que je vivais dans le troisième dessous, ivrogne, immonde, infâme, un plus sous que moi, contre une pièce de 100 sous, m'avait vendu sa femme. Quand je l'eus mise au lit, quand je voulus les traîner, quand je fis voler sa jupe, peu, il m'a paru tout à l'heure, j'avais été berné dans un marché de dupe. Remballe tes os, mamie, et garde tes appâts, tu es bien trop maigrelette. Je suis un bon vivant, ça ne me concerne pas d'étreindre des squelettes. Retourne à ton mari, qu'il garde les 100 sous, je n'en fais pas une affaire. Mais elle me répondit, le regard en dessous, c'est vous que je préfère. Je suis pas bien grosse fitelle, d'une voix qui se noue, mais ce n'est pas ma faute. Alors moi tout ému, je la pris sur mes genoux pour lui compter les côtes. Toi que j'ai payé 100 sous, dis-moi quel est ton nom, ton petit nom de baptême. Je m'appelle Ninette, eh bien pauvre Ninon, console-toi, je t'aime. Et ce brave sac d'os dont je n'avais pas voulu, même pour une thune, m'est entré dans le cœur et n'en sortirai plus pour toute une fortune. Du temps que je vivais dans le troisième dessous, ivrogne, immonde, infâme, un plus saoulot que moi, contre une pièce de 100 sous, m'avait vendu sa femme.
MDM.
Alors après cette délectation musicale, il faut quand même reprendre un peu le fil de notre conversation. Donc il faudra attendre le milieu du 18e siècle pour que la gourmandise soit définie, comme on le fait un peu aujourd'hui, comme un amour raffiné et plus seulement désordonné de la bonne chère. Dès lors qu'elle pénètre le monde de l'honnêteté, la gourmandise devient alors un signe de distinction sociale, la marque d'une éducation et la marque de plusieurs pays en même temps à travers cette éducation commune. Les temps modernes poursuivent le lent processus de codification des manières de table apparues au XVIIe, XVIIIe siècle et même au XXe siècle, avec la Bible culinaire, bien sûr, d'Auguste Escoffier, entre autres. Alors, on en détaille parfois les règles dans plusieurs bouquins, plusieurs lectures, plusieurs textes, et le repoussoir de cette civilité de la table s'incarne, lui, dans la figure hideuse toujours du goinfre dans la littérature de cette époque. La goinfrerie en est toujours l'opposé. L'art de la bonne chère, bien sûr, va de pair avec l'art d'en parler, comme si le savoir-faire ne suffisait pas, il fallait aussi le faire savoir. Dès la fin du Moyen-Âge, un langage spécifique s'est développé pour désigner les qualités ou les défauts d'un vin. Non seulement le terme « gourmet » échappe à toute connotation négative, mais porté par l'hégémonie de la cuisine française et le prestige social des grands vins, il s'imposera dans les autres langues européennes au cours du 19e siècle. Le bon goût s'apprend, se montre et se transmet. Ça n'est pas pour rien si nous avons dans la Bourgogne des noms aussi merveilleux dans les appellations, dans le Médoc, dans le Bordeaux, dans les grandes appellations des grandes régions. Parfois, tout ça, bien sûr, est élaboré et confine, bien sûr, ce bonheur de la table au meilleur, naturellement. À l'orée du 19e siècle, c'est le gastronome, et s'il n'en est pas des moindres, Brillat Savarin, pour moi, l'inventeur du fromage, quand on est capable de faire un fromage à 83% de matière grasse, triple crème, qui peut même être divisé en deux pour y adjoindre quelques lamelles de truffes, est un passeur culturel entre l'Ancien Régime et l'époque contemporaine. Et il écrira cette magnifique tirade « Les animaux se repaissent, l'homme mange, car l'homme, d'esprit, seul sait manger ». Dans les sociétés occidentales, fortement hiérarchisées et dominées par une aristocratie qui cultive à loisir sa distinction, la gourmandise, bien sûr, est avant tout sociale. L'auteur évoque également la nourriture comme ressort comique et burlesque dans la littérature du XVIIe siècle. Dans les romans, dans les contes, dans les fables de l'époque moderne. Tout comme dans la peinture, l'alimentation permet d'indiquer rapidement la position sociale des personnages. Alors l'honnête en bon point est la traduction corporelle du fin gourmet, mais aussi du beau. De la Renaissance au XIXe siècle, il est un critère de beauté féminin qui s'oppose à la laideur du maigre, du famélique, de l'osseux. Tout au long de son ouvrage, l'auteur analyse des tableaux de peintres sous l'angle des critères régissant le rapport à la nourriture de l'époque. C'est le cas de Bruegel l'Ancien, dont je vous parlais tout à l'heure, qui bien sûr dépeint les kermesses flamandes, les mariages et l'opulence très très ségrégative qui sépare les maigres, hideux, très émaciés, qui attendent la chute de quelques miettes venant des riches, dont leurs chiens qui aussi sont maigres alentour, et tous ces gens qui, à travers cette maigreur, expriment la laideur et la souffrance, bien évidemment. Pendant que les gros, eux, sont les beaux. C'est naturellement leur visage poupin est toujours entouré d'un immense sourire. Ils sont appétants, comme pourrait l'être, par exemple, un bon plat. On a envie, bien sûr, d'être gros à l'époque. C'est ce qui régit le rapport à la nourriture de l'époque et à la beauté. Pour l'historien Jean-Louis Flandrin, je vous recommande, dont je vous donnerai, bien sûr, comme d'habitude, la bibliographie, le recul de l'ancienne diététique mise à mal par les progrès de la médecine est apparu comme une libération de la gourmandise. On a moins fait de quantité pour faire plus dans la finesse et la qualité. L'espace ainsi libéré a permis une revendication ouverte des plaisirs de la bonne chair, une évolution, bien sûr, un discours nouveau admettant que l'homme mange aussi pour se faire plaisir et surtout pour se faire plaisir. Chez les riches, chez les pauvres, ça n'est pas toujours comme ça. La recherche de mets délicats, l'amour des bons morceaux, l'art de les reconnaître, le plaisir d'en parler, sont loués comme autant de marques d'une éducation. La redistribution du joug politique dans la France de la monarchie absolue facilite la compréhension et l'émergence de la figure du friand. À partir du XVIIe siècle, du reste, l'aristocratie française qui connaît une redéfinition de ses domaines réservés. De moins en moins guerrière, de plus en plus exclue du gouvernement, alors l'aristocratie trouve dans la magnificence de sa table un des moyens de maintenir son existence et son rapport social. Un mouvement qui se poursuit au XVIIIe siècle. La table sera un des lieux où s'épanouira la légendaire douceur de vivre des Lumières. C'est dans ce cadre que s'élabore une nouvelle cuisine, plus raffinée, plus inventive, ancêtre direct de la haute cuisine française, revue et organisée par Auguste Escoffier. Alors Florent Quellier, dont j'ai beaucoup parlé parce qu'il était très intéressant à travers trois ouvrages, clôt ce chapitre par l'évocation de la caricature révolutionnaire au sujet du solide appétit de Louis XVI. Assimilé à un moderne Gargantua, engloutissant toutes les richesses produites par le royaume, ou à un animal à la voracité proverbiale, l'image du roi cochon qui participe ainsi à la désacralisation du souverain dans les premières années de la Révolution, tout en annonçant quelque part sa prochaine mise à mort, puisque le destin de cochon n'est-il pas tout simplement d'être saigné. Nous trouvons ici des caricatures britanniques sur la gourmandise. Bien sûr, et l'opulence ségrégative est toujours mise en avant. Alors, déraisonnable, ce souverain, on ne sait pas, la caricature politique du 19e et du 20e siècle continuera à associer le corps du gourmand à la voracité. On y retrouve l'image classique du gourmand peint comme un parasite, un profiteur, voire une sangsue qui se nourrit du sang du peuple. Alors c'est aussi, malgré tout, l'âge de l'éloquence gourmande. Les ouvrages parodiques ont rendu l'évocation de la gourmandise à travers la vie de Saint Aran ou de Saint-Ognon, de la bonne chair au registre du burlesque, de la satire jusqu'à l'érotisme. L'auteur nous y fait suivre le martyre de Saint-Jambon et de Saint-Andouille, l'un des quatre sermons joyeux d'un petit livre imprimé au XVe siècle et resté un peu secret. Cette littérature facilite le détournement un peu carnavalesque, certes, des valeurs religieuses et civiles associées à la table. Les exploits héroïques et comiques de grande bouffe permettent de se moquer de la faim dans les sociétés marquées par l'insécurité alimentaire et de conjurer le spectre de la disette et de la peur de la famine. Trivial, la nourriture demeure largement absente des genres nobles. Les personnages mangent dans des comédies de Molière, mais pas dans les tragédies de Corneille. Sur le discours médical, on permet de disserter sur les tables de table jusque dans les livres de la cuisine, au moins jusqu'au milieu du XVIIe siècle, nécessaire alibi pour dire le plaisir gourmand, bien sûr. Peut-on revendiquer de la bonne chair ou il faut user d'un artifice religieux, moral ou médical pour en parler ? Les réponses de la littérature culinaire de la peinture suivent d'une chronologie proche qui invite à revoir l'interprétation traditionnelle des natures mortes et des scènes de genre, 16e et 17e siècle surtout, moins par la suite, en s'inspirant des historiens sur les livres de cuisine. L'almanach des gourmands, qui lui vient de 1803-1812, époque magnifique, de Grimaud de la Reynière, ouvrage dont je vous donne les coordonnées bien sûr aussi, c'est l'auteur qui livre ici les bonnes adresses de la capitale, déjà une idée où on peut passer par-dessus certains critères personnels pour ne pas avoir peur, en société, d'aller passer de bons moments. Des itinéraires certes nutritifs, ils dispensent aussi des règles de savoir-vivre, ça va de soi. Grimaud invente un nouveau genre littéraire, mais échoue dans sa tentative d'anoblissement du terme « gourmand ». Le 19e siècle, européen lui préférera « gastronome ». Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors l'œuvre de Brillat Savarin contribuera bien sûr au succès du discours gastronomique naissant. Au XXe siècle, l'art de la bonne chère peut prétendre accéder au rang de patrimoine. D'autant plus que la société de loisirs a transformé les spécialités gourmandes régionales maintenant en atout touristique majeur, ce qui ne se faisait pas à l'époque. L'alibi culturel permet d'assouvir sa gourmandise aujourd'hui. Une identité gourmande peut être associée à une ville, à une région ou à un pays. La gourmandise s'étend dès lors comme un apprentissage, une culture, un art de vivre identitaire, autrement dit un héritage dans lequel une communauté entière peut se reconnaître. Alors la gourmandise, une faiblesse du sexe faible ? Affaire entendue de longue date, le sexe féminin bien sûr a une préférence pour le goût sucré. Cette forte et ancienne association culturelle des femmes au monde des sucreries est révélatrice du statut réservé par les hommes aux femmes dans les plaisirs de la table. Elle dénie aux femmes toute aptitude aux hautes sphères de la gastronomie. Qui plus est, les femmes partagent le goût des sucreries avec les enfants. Encore un moyen de les éloigner. Longtemps, l'acte créateur de cuisiner a exclusivement révélé le masculin. Il faudra attendre 1795 pour qu'un livre de cuisine français soit attribué à une femme. Et encore, ne s'agit-il que quelques recettes de pommes de terre. Alors d'autre part, la gourmandise féminine, bien sûr, est liée en sous-entendu sexuel, évidemment, et constitue sous le signe d'une prédisposition à la galanterie, soit la marque d'une compensation à la vie, à l'absence de vie sexuelle. Eh ben dis donc, l'art de la séduction intègre le don d'aliments, corbeilles de fruits, confitures pour les galas en mal d'aventure. La réputation licencieuse du chocolat procède de la même association. Lascivité égale plaisir. Nombre de gravures déclinent ce lien entre consommation de cacao et libertinage érotique, qui, je le rappelle à l'époque, était un loisir chez les riches. Pour l'imaginaire occidental, on associe le chocolat à la sexualité, c'est évident. L'asperge, l'artichaut évoquent le sexe masculin. Ils sont considérés comme aphrodisiaques. L'huître et la figue sont les évocations du sexe féminin, chargées d'une forte connotation sexuelle dans la culture occidentale. L'auteur nous invite ainsi à considérer avec un autre regard bon nombre de natures mortes du XVIIe siècle. L'importance des références à l'alimentation dans les contes de romans libertins tient à ce lien quasi systématique entre séduction et plaisir de la table. L'érotisation de l'acte alimentaire induit obligatoirement une retenue de la femme honnête au plaisir gustatif. En d'autres termes, après les agapes à table, on pourrait toujours avoir envie de grandes parties de jambes en l'air. C'est plus clair. Dans les dernières pages de ces chapitres, abordés par les auteurs, les trois auteurs essentiels que j'ai rassemblés ici, on aborde la gourmandise canaille, celle du petit vin blanc et des filles qui sont belles à l'ombre des tonnelles. Celle du plaisir gourmand, hors du cadre guindé d'un repas gastronomique, transgression consciente des contenances de table imposées par la société en présence de l'autre sexe. Le cornet de frites bien grasse joue ce rôle de nourriture canaille depuis la fin du XIXe siècle. Les frites qui se mangent avec les doigts, dans la rue. À l'imaginaire coquin de la fête s'ajoute le plaisir de briser un interdit diététique, bien sûr. Un mets pourfendu par le discours médical. Voilà, cette relation entre la nature, entre la gastronomie, entre le plaisir, le retour en force d'un joug médiéval qui pèse et d'un discours diététique moralisateur, a actualisé le péché de gourmandise dans des sociétés pourtant marquées par un recul historique des sociétés et des églises chrétiennes. La gourmandise demeure un péché de classe, mais inversé par rapport à la période médiévale, car ce sont les milieux sociaux les plus défavorisés, les plus pauvres, qui connaissent aujourd'hui les plus forts taux d'obésité dans les sociétés occidentales contemporaines, malheureusement. La peur du cholestérol, du diabète, de la surcharge pondérale, des cancers, maladies cardiovasculaires, entretiennent le mode des aliments sans sel, sans sucre, sans quelque chose, sans gras, les aliments allégés et les alicaments. Mais l'alimentation peut être réduite à une simple question de nutriments. Ben, le plaisir gourmand n'est pas indispensable au bien-être psychique du consommateur et au commerce entre les hommes. Tous les imaginaires occidentaux ont été revisités au XXe siècle et XXIe siècle par les agences de publicité. Voilà ce que nous apprenons aujourd'hui. Et donc les publicitaires décrètent aujourd'hui la fin du péché de gourmandise. Alors bien sûr, c'est bon la honte, et surtout, ça peut rapporter gros. À bientôt sur nos ondes. Retrouvez Lou Gourmandas en podcast sur le site www.radio-mdm.fr. Adichas, à bientôt.